Et le journal est présenté ce soir par Fiona Mogadam. Bonsoir.
Bonsoir. Le Brexit sera-t-il reporté? Theresa May laisse au Parlement britannique le soin de prendre cette décision. Un vote sera organisé en mars. Précision à suivre dans un instant. Des milliers d'étudiants algériens dans les rues. Ils dénoncent la nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Les derniers combats en Syrie pour déloger les djihadistes du groupe État islamique sur une zone d'un demi-kilomètre carré. Reportage de notre envoyé spécial dans quelques minutes. Alexandre Benalla sort de prison. L'ancien collaborateur de l'Élysée avait fait appel de sa demande d'incarcération. Des personnes atteintes de handicap mental qui participent au grand débat national. C'est l'association L'Arche qui leur a permis de s'exprimer. France Culture était à leur côté. Theresa May a fini par céder à la pression. La première ministre britannique a annoncé cet après-midi que le Parlement pourra décider de reporter le Brexit et éviter ainsi toute sortie de l'Union européenne sans accord. Pour décider de la suite à donner au Brexit, les députés vont devoir voter à plusieurs reprises. Un premier rendez-vous est fixé dans 15 jours. Si le plan de sortie n'est pas validé, ils auront deux possibilités, soit une sortie sans accord, soit un report du Brexit. Antoine Gignot.
Ce report du Brexit, la semaine dernière encore, Theresa May ne voulait pas en entendre parler. Mais face à la pression de plusieurs ministres qui menacent de démissionner, face à l'opposition qui réclame désormais un deuxième référendum, la première ministre n'a pas le choix. Elle promet aux députés qu'ils pourront choisir dans 15 jours entre une sortie sans accord de l'Union européenne ou un report du Brexit, même si la priorité, dit-elle, reste de se séparer du bloc européen à la fin du mois de mars.
Je sais que plusieurs députés sont légitimement inquiets de voir l'horloge qui tourne. Mais je vais être très clair. Je ne veux pas une extension de l'article 50. Votre priorité absolue doit être de travailler à un accord et quitter l'Union européenne le 29 mars. Une extension au-delà de la fin du mois de juin obligerait le Royaume-Uni à participer aux élections européennes. Quel message ce serait pour les 17 millions de personnes qui ont voté pour quitter l'Union européenne il y a bientôt 3 ans?
Pas question donc, quoi qu'il arrive, d'imaginer un report du Brexit de plusieurs mois. Ce sera au mieux quelques semaines. Mais si la déclaration politique a temporairement apaisé les députés, elle ne rassure personne dans les milieux économiques. En acceptant de prolonger les discussions, la Première ministre prolonge aussi l'incertitude.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. Et si report il y a, il devra ensuite être accepté par l'Union européenne. Union européenne qui s'y est montrée ouverte. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a estimé hier qu'un délai serait une solution rationnelle. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika déposera sa candidature à la présidentielle dimanche, au pouvoir depuis 20 ans. Abdelaziz Bouteflika entend briguer un cinquième mandat. Aujourd'hui, des manifestations ont réuni des milliers d'étudiants partout dans le pays pour protester contre cette nouvelle candidature du chef de l'État. À Alger, Leïla Berato.
Le cinquième mandat, c'est trop, comme s'il n'y avait pas de relève.
L'appel avait été lancé pour 10 heures via les réseaux sociaux. Dans le quartier de Ben Aknoun, à la faculté des sciences de communication, Narimen avait prévu de manifester. Elle avait mis un drapeau dans son sac à dos.
Ils ont fermé les grilles de la cité universitaire et de la faculté. Et à un moment, il y a eu un mouvement de foule qui a fait qu'on a carrément arraché les barreaux de la porte vu qu'ils avaient mis des cadenas. Il n'y a pas eu de débordement. Après, je trouve qu'il y avait quand même certains éléments perturbateurs.
Un cortège de plusieurs centaines d'étudiants parvient à s'élancer. Repoussés par les forces de l'ordre, ils prennent finalement la direction de l'autoroute en chantant « Non » au cinquième mandat. Walid et Amir ont 22 ans.
Quatre mandats déjà, la quatrième mandat c'est une faute. Alors là, la cinquième mandat, on est contre. On n'est pas contre Bouteflika, on est contre tout.
Ces étudiants parviennent à marcher jusqu'au centre de la capitale où se rejoignent plusieurs cortèges de différentes facultés. En fin d'après-midi, des étudiants manifestaient toujours, des dizaines de personnes ont cependant été interpellées et des échauffourées ont débuté dans le quartier du Sacré-Cœur.
Leïla Berato pour France Culture. En Iran, le président Hassan Rouhani n'a pas accepté la démission de son ministre des Affaires étrangères. Sur Instagram, Mohammad Javad Zarif, l'un des personnages clés des négociations de l'accord international sur le nucléaire iranien, avait annoncé son départ sous la pression des durs du régime, mécontent des résultats de cet accord. Ils ne sont plus qu'une portion en Syrie, regroupés sur un demi-kilomètre carré. Les derniers djihadistes du groupe État islamique sont encerclés par les forces démocratiques syriennes à Baghouz, un village dans le nord-est de la Syrie. Et la bataille dure depuis plusieurs semaines, Mathieu Mondoloni.
La fin de Daesh se fait attendre. Le dernier réduit tenu par l'État islamique, une poche de 700 mètres carrés en plein Baghouz, est toujours encerclée par les combattants des forces démocratiques syriennes. Avant de lancer l'assaut final, elles évacuent les derniers civils encore présents. Ils sont environ 5000 à avoir été récupérés par la coalition anti-djihadiste en moins d'une semaine. Et il pourrait y en avoir encore autant à l'intérieur de la ville. Mais les évacuations s'accélèrent et les forces démocratiques syriennes espèrent s'emparer de Baghouz dans les prochains jours. Pour les combattants de Daesh, ce sera la reddition ou la mort, prévient un officier. Personne ici n'a le moindre doute sur l'issue de cette bataille qui scellera la fin du califat de l'État islamique. Dans l'une des bases arrières de la coalition, on se prépare d'ailleurs déjà à fêter la victoire. On commence à hisser de grandes affiches avec les portraits des combattants ayant perdu la vie face à Daesh. Et juste en face, sur un mur repeint en blanc pour l'occasion, on peut lire cette inscription « Le pays dans lequel on vit mérite qu'on le protège ».
Mathieu Mondoloni, envoyé spécial en Syrie pour France Culture. Le grand rabbin d'Argentine a été grièvement blessé à Buenos Aires, violemment agressé chez lui par des inconnus. Hier, un cimetière juif a été profané dans la province de San Luis. Le président des institutions juives d'Argentine a dénoncé un acte antisémite. Les Américains préparent-ils une intervention militaire au Venezuela? Ce sont les accusations que lance aujourd'hui Moscou envers Washington. Le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie soupçonne les États-Unis d'envoyer des soldats en Colombie et à Porto Rico pour mener une opération visant à chasser Maduro du pouvoir. Il accuse également les Américains de repousser les consultations sur la situation au Venezuela. Le président américain Donald Trump, qui est arrivé aujourd'hui à Hanoï au Vietnam pour un deuxième sommet avec Kim Jong-un, sur la table des négociations avec le dirigeant de Corée du Nord, une déclaration pour mettre fin formellement à la guerre de Corée, car en 1953, seul un armistice a été signé. Donc techniquement, la Corée du Nord, les États-Unis et la Corée du Sud sont toujours en guerre. Une déclaration de paix à laquelle le gouvernement sud-coréen est très favorable. Les conservateurs y sont opposés. C'est le cas notamment de réfugiés nord-coréens que vous avez rencontrés à Séoul, Frédérico Jardias.
Plusieurs transfuges nord-coréens crient leur colère et leur inquiétude, réunis sous la statue de l'amiral Lee Sun-shin dans le centre de Séoul. Le réfugié Kim Song-min appelle Donald Trump à soulever la question des droits humains lors du sommet de Hanoï.
Donald Trump demandait à Kim Jong-un de fermer les camps de prisonniers politiques. Si jamais Kim et Trump déclarent la fin de la guerre, la Corée du Nord demandera ensuite le départ des troupes américaines de Corée du Sud. Le régime essaiera de faire du Sud un pays communiste. Kim Jong-un veut nous réduire en esclavage, nous aussi.
Les manifestants ont ensuite déchiré des portraits de Kim Jong-un. Cho Won-jin est le président du Parti des Patriotes Coréens, organisateur de la manifestation.
Une déclaration de fin de la guerre sans abandon des armes nucléaires, c'est un piège de la Corée du Nord. Cela provoquera le départ des troupes américaines. Le président sud-coréen veut nous faire croire que cela constituera la paix, mais c'est faux.
La Corée du Sud assure qu'un éventuel traité de paix ne signifiera pas le départ des 28 000 soldats américains de son territoire. Et la Corée du Nord, par l'intermédiaire de ses négociateurs, a présenté les mêmes assurances. Mais ces promesses ne convainquent pas les plus conservateurs à Séoul. Dans un renversement plutôt inattendu, les progressistes sud-coréens, autrefois très opposés à Trump, chantent à présent les louanges de la politique d'engagement du président américain à l'égard de Kim Jong-un. Et ce sont les conservateurs sud-coréens, auparavant pro-Trump, qui partagent le scepticisme des démocrates américains.
Frédérico Jardias à Séoul, de RFI pour France Culture. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. Après avoir passé une semaine en prison, l'ancien collaborateur de l'Élysée va être libéré. Décision de la Cour d'appel de Paris cet après-midi. Alexandre Benalla et son ami Vincent Crase vont donc sortir tous les deux de prison. Bonsoir Florence Thuam.
Bonsoir.
Pourquoi cette décision qui vient contredire celle prise la semaine dernière?
Difficile de vous répondre précisément dans la mesure où l'on ne connaît pas les motivations de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a examiné le dossier dossier déposé par chacun des deux hommes contre son incarcération. Motivation couverte par le secret de l'instruction, vient de nous indiquer le parquet de Paris, en précisant par ailleurs que les mesures du contrôle judiciaire des deux mises en examen reprennent leurs effets. Autrement dit, une fois sortis de prison, Alexandre Benalla et Vincent Crase n'auront toujours pas le droit de se rencontrer. Ils se sont vus pourtant le 26 juillet, selon les enregistrements clandestins publiés par Mediapart, ce qui leur a valu cette incarcération, décidée mardi dernier par le juge de la détention et des libertés, puis confirmée trois jours plus tard par le juge des référés, saisi en urgence par la défense. Des enregistrements dont les avocats contestent la légalité, ils l'ont redit aujourd'hui. Enregistrements qui font par ailleurs l'objet d'une enquête préliminaire et des expertises sont encore en cours à ce stade. Selon la défense, la détention des deux hommes n'était pas justifiée et sans doute d'autant moins, ironise l'avocat de Vincent Crase, qu'elle était motivée par la nécessité d'empêcher leur concertation. Ils se sont pourtant retrouvés côte à côte pendant une heure dans le même box le jour de leur convocation mardi dernier, pendant que le magistrat statuait précisément sur leur détention.
Merci Florence Thurme. C'est un produit qui n'est pas encore vendu en France, mais qui suscite déjà la polémique sur les réseaux sociaux. La marque française Decathlon va prochainement commercialiser un hijab spécial course à pied en France et partout dans le monde. Un produit que la marque vend déjà au Maroc et qu'elle dit assumer complètement. Bonsoir Steven Gualier.
Bonsoir Fiona.
Une annonce qui ne passe pas dans la sphère politique non plus.
Et tout est parti d'un tweet de la porte-parole des Républicains, Lydia Girous, dimanche, accusant Decathlon, photo du hijab renin à l'appui, de se soumettre à l'islamisme et de renier les valeurs de notre civilisation. Fin de citation. Et depuis, effectivement, la polémique enfle, si bien que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a ce matin été interrogée sur le sujet chez nos confrères d'RTL.
C'est légal, cependant, c'est une vision de la femme que je ne partage pas, évidemment, hein, vous l'imaginez bien. J'aurais préféré qu'une marque française ne promeuve pas le voile. Après, il est évidemment permis et on sait bien que la laïcité en France permet le port du voile et c'est très bien et c'est notre société.
Et la marque, dans un premier temps, a d'abord évoqué une erreur avant d'assumer la commercialisation future du hijab, sans doute d'ici la mi-mars, en écrivant notamment « Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible partout dans le monde ». Les réactions, elles, se sont enchaînées, surtout côté politique. La porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée, Aurore Berger, écrit « Mon choix de femme et de citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs ». Au PS, la porte-parole du groupe à l'Assemblée, Valérie Rabault, a, elle, directement posé la question du boycott de Decathlon, un débat qui devrait ce soir se tasser. Invité chez nos confrères d'RTL il y a quelques minutes, le directeur de la communication du groupe Decathlon a annoncé l'abandon du projet de vente du hijab renin.
Le président de la République reçoit en ce moment à l'Élysée les élus du Grand Est, alors que le président de la région a appelé l'État à faire preuve d'autorité après 15 samedis de manifestations des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a répondu « Lorsque l'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire ». Il a appelé à la clarté sur les manifestations qui dégénère, évoquant un miracle qu'il n'y ait eu aucun mort à déplorer de la part des forces de l'ordre après autant de samedi avec cette violence. Permettre à toute la population de s'exprimer, c'est l'objectif du grand débat national. Alors l'association L'Arche a décidé hier d'organiser un débat ouvert aux personnes atteintes de handicap mental. Elles étaient une centaine rassemblées dans le 15e arrondissement de Paris et ont donné leur avis sur les questions de citoyenneté et d'écologie, Margot Steve.
Ce sont les invisibles parmi les invisibles, ceux dont le handicap ne se voit pas. Souvent oubliés, ils ont voulu hier montrer qu'eux aussi se sentent citoyens.
On va essayer chacun d'entre nous de prendre la parole et de dire un petit peu notre vision, ce qu'on entend par être citoyen.
Ici, pas de grandes discussions enflammées, mais des échanges en petits groupes d'une dizaine de personnes. Sur la table, des images, des dessins, des photos et des animateurs pour aider chacun à formuler ses idées.
Être acteur de la société. Est-ce que vous voulez un petit peu développer, un petit peu... C'est quoi être acteur pour vous ?
C'est intervenir dans la société.
Intervenant dans la société.
D'aujourd'hui.
D'accord.
Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas une raison pour oublier la parole des personnes handicapées, explique Samuel. À 37 ans, il lit les journaux et vote à chaque élection.
C'est important que les personnes handicapées soient pleinement conviées au débat qu'a convié M. le Président de la République et tout. comme le président a dit que c'était ouvert à tout le monde. Malgré notre handicap, qu'on soit plus reconnu dans la société, qu'on soit, malgré notre handicap, qu'on ait des citoyens parents, qu'on ait des citoyens comme les autres qui ne sont pas handicapés.
Car cette question de la citoyenneté, elle se pose pour les personnes en situation de handicap comme pour les autres, explique Anne de Laval. Elle est directrice de l'Arche à Paris.
Comment je contribue, comment moi aussi, qui suis porteur d'un handicap, je participe quand même à la vie de la société. Je suis également un consommateur, je suis également un être qui pense, qui existe, qui a des aspirations, des inquiétudes, qui a envie d'améliorer le monde, de construire une société meilleure.
Et qui peut aussi apporter une vision différente des choses. Anne Chaberdière est animatrice à l'association de l'Arche à Paris.
Les personnes qui ont une déficience intellectuelle, elles ont besoin qu'on leur présente les choses simplement, mais elles peuvent penser des choses très complexes. Et donc, elles sont précieuses pour nous dans le grand débat, parce qu'elles savent donner des paradoxes, elles savent allier des contraires, chose qui est quand même une activité humaine subtile. Mais c'est vrai que pour pouvoir rentrer dans le sujet, il faut qu'on leur présente de manière accessible. C'est pas des grandes grilles de questions qui vont pouvoir les aider à rentrer.
Après une heure de débat, chaque groupe résume ses constats et ses propositions.
On gâche trop, on marche sur des décharges. Les arbres fabriquent de l'oxygène. Si on enlève des arbres, on n'aura plus d'air. On coupe trop les arbres, il n'y aura plus de vie, il n'y aura plus personne.
Des idées qui seront ensuite synthétisées et partagées sur le site officiel du Grand Débat National.
Dossier signé à Margot Steve pour France Culture. La réforme de l'assurance chômage sera présentée au printemps. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. Une réforme pour laquelle le gouvernement aura le dernier mot. Après l'échec des négociations la semaine dernière, dans les pistes toujours envisagées, il y a le bonus-malus, ou comme l'appelle le gouvernement, le système pour responsabiliser les entreprises qui abusent des CDD. Mais également, Catherine Pétillon, une remise en cause du système d'indemnisation pour les salaires élevés.
Oui, pour le dire autrement, c'est l'indemnisation des cadres au chômage que l'exécutif veut changer. Selon le Premier ministre, nous devons, je cite, « revoir notre système qui permet d'obtenir des niveaux d'indemnisation trois fois supérieurs à ce qui se passe chez nos voisins ». Actuellement, un chômeur peut être indemnisé jusqu'à 7 700 €. Ça concernait environ 500 personnes en 2016 et selon l'UNEDIC, 130 000 personnes indemnisées gagnaient auparavant plus de 3 000 €. Si l'exécutif veut baisser le niveau d'indemnité des plus hauts revenus, c'est pour deux raisons. D'abord, pour lui, un niveau trop élevé d'allocations ralentirait le retour à l'emploi. Il s'appuie pour dire cela sur les chiffres du nombre de jours indemnisés. Ensuite, parce que les cadres sont bien moins au chômage que d'autres catégories. Un argumentaire auquel s'oppose vigoureusement François Omeril, président du syndicat de cadres CFE-CGC.
Ce sont deux arguments totalement inacceptables, démagogiques, voire populistes. Premièrement, quand on est au chômage, qu'on soit cadre ou n'importe quel salarié, on est totalement focalisé sur sa recherche d'emploi, sur sa reconversion quand c'est nécessaire ou sur sa requalification. Donc venir dire qu'aujourd'hui il y aurait une catégorie particulière, en l'occurrence des cadres, qui glanduraient au chômage en attendant on ne sait quoi, tel que le sous-entend le gouvernement, c'est totalement scandaleux. Et certes, aujourd'hui dans la population des cadres, le taux de chômage est de 4%. Mais le jour où on est au chômage, on est à 100% au chômage.
Le syndicat y voit également une menace sur le fonctionnement assurantiel. Si certains cadres coûtent cher à l'assurance chômage, c'est aussi la catégorie qui la finance le plus. 42% des ressources viennent des cadres via leurs cotisations et ils perçoivent 15% des allocations. Pour les syndicats, un traitement différencié serait donc une menace sur la solidarité entre catégories. Voilà qui promet dès cette semaine des discussions fermes entre les partenaires sociaux et l'exécutif, désormais maître à bord.
Catherine Pétillon, une prime de 3 810 € pour les salariés français de PSA qui gagnent jusqu'à 2 fois le SMIC. C'est le patron du constructeur automobile qui l'annonce aujourd'hui alors que les résultats du groupe sont qualifiés d'historiques avec un bénéfice record pour l'an dernier en hausse de 47% à près de 3 milliards d'euros. Dès demain à Paris mais aussi à Lille, la circulation différenciée va être mise en place. Les véhicules les plus polluants ne pourront pas rouler. Une mesure demandée à plusieurs reprises par la maire de Paris, Anne Hidalgo, alors que la pollution aux particules fines dure depuis près d'une semaine en Ile-de-France. Elle est prise au bon moment selon le ministre de l'écologie François de Rugy.
Et là, comme on voyait que ça recommençait, que les conditions météo poussent à ce que la pollution stagne au-dessus de Paris, nous avons décidé, la préfecture de police de Paris, en lien avec les élus de Paris, j'ai moi-même été en lien la semaine dernière avec l'agent au maire en charge des transports à Paris, pour que dans le dialogue, en suivant vraiment de façon très précise les chiffres de pollution constatés, et les prévisions météo, on arrive à des mesures adaptées. Prends une mesure de prévention à l'avance. Moi, je souhaite que l'on puisse continuer à travailler avec la mairie de Paris, mais sur la base des constatations de qualité de l'air ou au contraire de pollution de l'air, et sur la base bien sûr des prévisions météo qui nous permettent d'anticiper une montée de la pollution de l'air et à ce moment-là de prendre des mesures. Heureusement, il y a les transports en commun, il y a les applications de covoiturage vers lesquelles les habitants peuvent se tourner pour éviter de prendre leur voiture.
Et la météo pour demain, ce sera un temps exceptionnel pour tout le monde avec un grand soleil et des températures toujours aussi douces, jusqu'à 24 degrés au maximum à Toulouse dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal, il a été préparé avec Jean-François Braun.